de mettre explicitement, théoriquement, noir sur blanc, ce que beaucoup de gens pensent, et surtout à gauche. J'insiste, à droite moins. Et c'est bien malheureux parce que la droite, de ce point de vue-là, est beaucoup plus rationnelle. Bon, et nous, il ne faut pas laisser. Enfin bon, bref, on y reviendra. Alors, la chose la plus simple à comprendre, c'est dans un numéro de La Recherche, qui est une revue scientifique réputée en France, Bruno Latour a écrit un article intitulé Ramsès II est-il mort de la tuberculose ? Parce que les savants avaient démontré, que, savants modernes bien sûr, que Ramsès II, donc pharaon égyptien, en examinant sa momie, était mort de la tuberculose. Vous, ça vous gêne pas qu'on dise que Ramsès II est mort de la tuberculose, parce que vous êtes des êtres primitifs. Vous ne savez pas que le bacille de Koch, qui est responsable de la tuberculose, n'a été inventé qu'en 1880. Comment Ramsès II pouvait-il mourir d'une maladie qui n'existait pas ? Ah oui, mais... Oui, non, mais d'accord, il y a deux pages entières de La Recherche consacrées à cette importante question, est-ce que ça a un sens ? Je n'invente rien. Bruno Latour. La réponse de bon sens, celle, je crois, de la camarade, mais primitive, consiste à dire que les objets, bacilles ou ferments, et moi je pourrais ajouter atomes, hein, c'est pareil, étaient déjà là depuis des temps immémoriaux et que nos savants les ont simplement tardivement découverts. C'est l'idée primitive de la camarade. Dans cette hypothèse, l'histoire des sciences n'a aucun intérêt fort limité. On n'a pas besoin de sociologues dans ces conditions. Avant Koch, le bacille de la tuberculose n'a pas de réelle existence. C'est moi qui souligne réel, c'est pas lui, hein. Il faut être honnête, il n'a pas de réelle existence. Alors ça, c'est typique de la pensée de Bruno Latour. Il y a deux lectures de cette phrase. Il y a une lecture qui consiste à dire qu'est-ce que ça veut dire réel ? S'il veut dire avant Koch, le bacille n'a pas d'existence, tout le monde ricane, parce qu'on va dire comment peut-on découvrir quelque chose qui n'existe pas. Mais il dit réel, il est malin. Ça veut dire quoi, réel ? Ça peut vouloir dire dans la conscience des hommes. Ben évidemment, avant qu'on le découvre, il n'existait pas dans la conscience des hommes. Donc si c'est ça, réel, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire il y a identification entre la réalité d'une chose et sa découverte. Ça, c'est très important, ça caractérise bien cette école, si vous voulez. Entre le vrai et le reconnu vrai, c'est la même chose. Et si vous jouez à ce jeu-là, alors vous êtes sur une pente extrêmement glissante. Je vais vous donner... Oui, j'ai joué un petit jeu de malhonnête, mais enfin, bon, je ne peux pas m'empêcher. J'ai pastiché Bruno Latour. Essayez de retenir ça. La réponse de bon sens consiste à dire que les objets étaient là depuis d'un an et que nos savants les ont simplement tardivement découverts dans cette hypothèse, etc. Avant Koch, le bacille n'a pas de réelle existence. J'ai fait un petit pastiche facile, démagogique. J'ai réécrit Bruno Latour. J'ai mis en rouge ce que j'ai changé. La réponse de bon sens consiste à dire que l'Amérique était déjà là depuis des temps immémoriaux et que nos navigateurs l'ont simplement tardivement découvert. Dans cette hypothèse, l'histoire de la navigation n'a qu'un intérêt fort limité. Avant Colomb, l'Amérique n'a pas de réelle existence. Bon. Alors, sous cette forme, ça paraît grotesque. Mais alors, on va me dire, mais quand même, tu es encore de mauvaise foi. L'Amérique, évidemment qu'elle existait avant, c'est grand, c'est Maus, alors que le microbe, c'est tout petit. Donc il y a une différence, si j'ose dire, de taille entre les deux. Mais si vous réfléchissez un peu, c'est pas vrai du tout. Allez à Brest et regardez vers l'ouest, très loin. Est-ce que vous verrez l'Amérique ? Non, elle est beaucoup trop petite. Pour voir l'Amérique, il faut vous en approcher. Pour vouloir vous en approcher, il faut une théorie. La théorie de Coulomb, c'était pas de lui seul, c'était que la Terre était sphérique, et qu'en se déplaçant toujours vers l'ouest, on allait retomber sur un continent, forcément. Donc il y avait une théorie, et puis, en s'approchant de l'Amérique, il l'a vu. Mais les microbes, c'est pareil. Il faut vous en approcher. Il y a un instrument pour ça, ça s'appelle le microscope. Le microscope, c'est en quelque sorte la caravelle, si vous voulez, du biologiste. Le microscope, le bacille de Koch, a autant d'existence que l'Amérique. Voilà. Enfin, à mon avis, donc, je rejoins la camarade primitive sur cette question-là. Je vais vous donner une autre citation, peut-être un peu plus subtile. Isabelle Stengers, qui est une philosophe des sciences, à la différence de Latour, elle est plutôt à gauche, enfin, politiquement, elle est même très sympathique, mais philosophiquement, voilà ce qu'elle dit. Un concept n'est pas doué de pouvoir en vertu de son caractère rationnel. Bon, on va revenir là-dessus. Il est reconnu comme articulant une démarche rationnelle parce que ceux qui le proposaient ont réussi à vaincre le scepticisme d'un nombre suffisant d'autres scientifiques, eux-mêmes reconnus comme compétents. Peut-être je vous le relis parce que c'est pas absolument évident. Un concept, mais je vous ai dit, on va s'intéresser au relativisme cognitif, hein, c'est pas une affaire d'enfant de cœur, ça. Un concept n'est pas doué de pouvoir en vertu de son caractère rationnel. Il est reconnu comme articulant une démarche rationnelle parce que ceux qui le proposaient ont réussi à vaincre le scepticisme d'un nombre suffisamment d'autres scientifiques, eux-mêmes reconnus comme compétents. Ouf. La première phrase, un concept n'est pas doué de pouvoir en vertu de son caractère rationnel, c'est une trivialité fausse. Je reviendrai là-dessus, c'est faux, tout simplement. C'est important que ce soit faux, enfin bon. La deuxième phrase, par contre, est tout à fait vraie. C'est une lapalissade. Un concept est reconnu comme articulant une démarche rationnelle parce que ceux qui le proposent ont réussi à vaincre le scepticisme de ceux qui n'y croient pas. Ben évidemment, on reconnaît bien. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est reconnu comme bien? Parce que la majorité des gens l'ont reconnu comme tel. Elle n'a rien dit. Mais vous voyez, c'est une phrase extrêmement vicieuse. Quand vous la lisez très vite, vous dites, mais elle a raison, bien sûr. Par exemple, la théorie de Ptolémée, le géocentrisme, qui mettait la Terre fixe et le Soleil tournant autour. Elle n'est pas bonne, cette théorie, elle est fausse. N'empêche qu'elle a été acceptée pendant 1500 ans. La physique d'Aristote, qui dit que... Elle dit beaucoup de choses, la physique d'Aristote. Elle dit, par exemple, que les corps graves ont tendance à occuper leur place naturelle vers le bas, alors que le feu a tendance à monter vers le haut. Bon, c'est une physique fausse, mais bon, c'est une physique aussi qui dit que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont lourds, etc., etc. C'est que faux. Ça n'empêche que ça a existé pendant presque 20 siècles. Hein. Donc on a envie de dire, ben oui, un concept n'est pas doué de pouvoir vertu de son étincelle, il est reconnu comme articulant parce que la majorité des gens le croient. Ouais, ben c'est pas vrai. La physique d'Aristote, je suis désolé, elle est fausse. Mais il n'est pas vrai qu'elle n'a pas de caractère rationnel. Prenez une boule de pétanque, et pour ceux qui connaissent, et une balle de tennis, la boule de pétanque tombera plus vite que la balle de tennis. Hein. Bon, c'est une vieille histoire, on y reviendra si vous voulez dans la discussion, mais bon, Aristote disait, il faut toujours une force pour que le mouvement soit entretenu. Mais prenez un billard, jetez la boule sur le billard, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Quel que soit le billard, quelle que soit la surface du billard, quelle que soit la surface de la boule, au bout d'un moment, elle s'arrête. Donc l'idée, c'est qu'il faut bien une force pour entretenir le mouvement. C'est une idée fausse, mais c'est l'idée, elle est tout à fait rationnelle. Hein. Je peux vous multiplier ce genre d'exemple. C'est une rationalité fausse. Enfin, c'est une rationalité, mais ça ne veut pas dire qu'elle est exacte. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une très jolie confusion là-dedans entre... reconnu vrai et vrai. Faire très très attention à ça, parce que sinon, vous êtes exactement sur la pente glissante dont j'ai parlé. Alors, est-ce que ça veut dire que il n'y a pas de construction sociale dans les sciences, ou que la société n'a rien à voir? Évidemment, si, c'est absurde de dire ça. Prenez un exemple très... Je vais me faire engueuler, mais enfin, j'ai presque fini. Prenez un exemple très simple. Quand Galilée a regardé la Lune, il a vu des montagnes. Et il n'avait rien fumé, hein. Il a vu les montagnes sur la Lune, alors qu'Aristote disait que la Lune était une sphère parfaite, plate, etc., etc. Bon. L'Église s'est opposée à ça, à cause d'Aristote, à cause de plein de choses comme ça, avec des arguments assez forts. D'abord, la lunette de Galilée était très mauvaise. N'importe quelle jumelle de théâtre minable aujourd'hui est bien supérieure à la lunette de Galilée. Deuxièmement, on n'avait aucune explication théorique très convaincante de l'optique de cette jumelle. On ne savait pas très bien ce qui se passait. Donc c'est quand même des arguments réels. Et puis les images de Galilée, bon, c'est pas très net. Bon. N'empêche que Galilée va très rapidement triompher. Bon. Moi, je vais vous dire une chose très simple que la camarade va comprendre. Galilée va triompher parce que les montagnes étaient là. On va me dire, oui, mais les montagnes étaient là depuis des milliards d'années et personne ne les avait vues. Bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour voir les montagnes sur la Lune, il fallait des conditions sociales et historiques déterminées. Il fallait d'abord une audace intellectuelle qui consiste à braquer la lunette vers le ciel pour essayer d'y voir quelque chose. Il fallait la lunette elle-même, la lunette des Hollandais, ce qui suppose quand même un certain développement technique. Voilà, il fallait la conjonction de... Et tout ça sont des événements qui sont typiquement sociaux et historiques. Mais les montagnes de la Lune ne sont pas des constructions sociales, c'est ça la question. Il faut distinguer soigneusement les conditions d'une découverte, qui sont effectivement sociales, culturelles et tout ce que vous voulez, de la découverte elle-même. Bon, voilà. Le boson de Higgs, pour prendre cet exemple-là, on doit pouvoir le rattacher à l'impérialisme américain en un certain sens, à l'impérialisme en général, n'empêche qu'il est là, le boson de Higgs, indépendamment des conditions dans lesquelles il a été trouvé. Bien. Alors, pourquoi il y a un tel succès du disons, ce qu'on appelle le constructivisme social. Mais parce que pour beaucoup de gens, ça apparaît comme une désacralisation utile de la science. On en a marre de cette espèce d'outrecuidance des scientifiques qui prétendent détenir la vérité. Si on peut leur savonner un peu la planche, c'est une bonne chose. Et derrière ça, bon, c'est pas antipathique, hein, cette idée, mais derrière ça, malheureusement, il y a une confusion terrible entre science et application de la science. Ça, c'est une distinction très importante à faire. Ce qu'on appelle science, c'est très vague. Je vais vous donner un exemple précis, les OGM. On en a parlé, je crois, tout à l'heure. Bon, malheureusement, j'ai pas entendu ce que la camarade disait. En plus, moi, j'y connais pas grand-chose sur les OGM, mais enfin, pour moi, en tout cas, c'est une découverte, c'est un progrès scientifique énorme et très intéressant. Bon. Par contre, monsieur Monsanto, je déteste. Bon, c'est très dangereux et très mauvais. Mais on ne peut pas conclure ça en disant « Ah bah les OGM !» Il faut dire « Ah bah Monsanto !» Et puis pour tant de raisons, je ne veux pas développer ça, ce n'est pas mon boulot, mais bon, je ne sais pas si vous aimez TF1, moi je n'aime pas trop. Mais je ne dirais pas « Ah bah la télé !» Je dirais « Ah bah TF1 !» Bon, voilà, c'est très précis. Et c'est pas Einstein qui est responsable de Nagasaki et d'Hiroshima. Au contraire, la relation E égale MC2, c'est libératoire pour l'humanité. C'est une excellente chose. On pourra faire beaucoup de choses avec ça. Bon, c'est une décision politique qui a été d'envoyer la bombe, etc. On peut discuter à l'infini. Mais il faut surtout pas mélanger les deux, parce que ça laisse la rationalité aux mains de nos adversaires. Alors, il est vrai, dans la discussion, je suis transparent pour ça, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il est vrai qu'il est difficile de dire qu'est-ce qui rend une démarche vraiment scientifique et convaincante et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est très difficile de jouer à ce jeu-là. On y jouera peut-être un peu tout à l'heure si vous avez envie. N'empêche que c'est nécessaire de le faire. Et on le fait tous les jours. Je vous donne un parallèle avec ça, la justice. Est-ce que vous êtes capable de définir ce qui est une décision juste ? C'est très difficile, hein. Il y a des tonnes de littérature qui ont été consacrées à ça. N'empêche que c'est très important d'avoir cette idée de justice. Il faut surtout pas confondre, énervant son truc, il faut surtout pas confondre ministère de la justice et justice. Hein. C'est grave de confondre les deux. Et si vous voulez, quand vous critiquez une décision du ministère de la justice, c'est au nom de la justice, précisément. Sinon, tout est possible, on peut faire n'importe quoi, et c'est le cynisme généralisé. De la même façon, en science, quand vous critiquez telle ou telle chose, c'est au nom d'une rationalité scientifique. Et pas... voilà. C'est quelquefois difficile à faire. C'est plus facile de dire les OGM, on n'en veut pas, c'est une horreur à cause de Monsanto, mais c'est un raccourci qui n'est pas bon. Il faut prendre la peine de regarder pourquoi les OGM Monsanto sont dangereux. Et on peut le faire, des tas de très bons scientifiques l'ont montré. Mais il ne faut pas fuir la discussion là-dessus. Parce que sinon, bon, vous rentrez dans... Donc, si vous voulez... De même que pour la justice, il est plus facile de définir quelque chose qui n'est pas juste, de la même pour la science, il est beaucoup plus facile de définir une démarche qui n'est pas scientifique. C'est pas la peine d'être grand clair pour démontrer que Madame Tessier, qui a fait une thèse sur l'astrologie, a fait une thèse bidon, qui était un scandale intellectuel. Bon, c'est pas la peine d'avoir une définition très propre de la recherche scientifique pour comprendre que c'est une escroquerie intellectuelle et même matérielle. Donc, justice et science, c'est aussi plus facile de démontrer les choses un peu à l'envers. Alors, je terminerai par trois considérations. D'abord, une remarque. Ne vous laissez pas impressionner par la déclaration de tel ou tel scientifique, parce qu'il est vrai que la science est faite par les scientifiques, mais les scientifiques ne font pas nécessairement de la science. Hein. On peut prendre des tas de citations de scientifiques qui sont une horreur du point de vue intellectuel, mais il ne faut pas se laisser démonter. Il faut démontrer que quand ils font cette déclaration-là, ils ont quitté le terrain de la science. Ils font autre chose. Bon. Alors, je crois qu'il y a trois raisons qui font que le constructivisme est pas bon. Pour les gens qui font de la recherche scientifique, et en fait pour toute la société, si vous voulez, l'idée est que maintenant, si le triomphe d'une théorie scientifique sur une autre est dû à un meilleur réseau de communication, à une publicité mieux faite, alors autant dans les facultés et dans les labos, développer le budget de la com, et pas le budget d'une éducation de masse des étudiants et de recherche. Parce que la recherche est toujours aléatoire, alors que le budget com, on voit très bien où ça va. Et c'est une tendance qu'on voit maintenant, hein, de rendre la science visible, enfin, etc., etc. Bon, première remarque. Deuxième remarque, il y a un problème de, si vous voulez, quand vous jouez au jeu que les découvertes scientifiques dépendent du milieu culturel dans lequel elles ont eu lieu, qu'il n'y a pas d'interrelation possible entre les divers mondes, à ce moment-là, vous enfermez les gens dans une espèce de ghetto culturel et il n'y a plus d'intercommunication possible. Si vous voulez, si les Indiens pensent que, je ne sais pas quoi, moi, Dieu a créé le monde de telle ou telle façon, bah, c'est leur culture à eux. Vous ne pouvez pas la juger en fonction de votre culture à vous. S'ils se soignent avec les plantes sans vouloir prendre d'antibiotiques, c'est leur culture à eux, etc., etc. Bon, on voit bien que ce jeu-là peut être dangereux, même s'il y a des éléments vrais là-dedans, on peut comprendre. Et enfin, dernière chose que je dirais, si vous pensez qu'il n'y a pas de vérité scientifique, que finalement tout dépend des intérêts sociaux qui sont derrière, vous n'avez aucun argument à opposer aux créationnistes qui vous disent que Dieu a créé le monde il y a 4004 ans. Aucun, parce que c'est leur univers à eux, c'est leur monde à eux, vous, vous avez le vôtre, et puis chacun sa religion. Voilà. Et c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir faire ça. Voilà, ben je vous remercie. Arrêter ce truc-là, là, c'est... Bon, tant pis.
Voilà. J'ai les idées plus claires, comme ça.
Oui, bien sûr, évidemment. Ça, c'est du socialement construit totalement. Le budget de la recherche, c'est résulte de décisions politiques. Et voilà, c'est évident. Comment dire Non, mais... L'argent du CERN, ça vient essentiellement de l'Europe, un petit peu des Américains, un petit peu des Japonais, mais il y a une politique de recherche fondamentale quand même qui est décidée par les États parce que ça peut les intéresser en un certain sens quand même. Ça peut, la découverte du boson de Higgs n'a pas d'implication militaire, par exemple, que je sache. Mais comment te dire, il y a une très jolie phrase qui consiste à dire on n'a pas inventé le laser en cherchant à perfectionner la bougie. Donc on ne sait jamais est-ce que la recherche peut donner. Kassler qui a découvert le maser, on lui aurait dit, monsieur Kassler, votre découverte va révolutionner pratiquement le 20e siècle et le 21e parce que ça fera les lasers plus tard. Il n'aurait jamais cru, c'était un objet purement de recherche théorique. Bon, donc les États décident quand même de consacrer de moins en moins mais d'argent à la recherche fondamentale. Bon, oui, voilà, c'est... Non, la science ne se déroule pas dans un univers aseptique. Pardon ? Il y a une décision politique des gouvernements de mettre un peu de fric sur la recherche fondamentale. Oui. Bah oui. Mais...
science, souvent on a tendance à ajouter le terme d'éthique. Et voilà, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Je sais que Aristote justement parlait d'éthique, Spinoza aussi. Est-ce que dans ces discussions, il n'y aurait pas une volonté justement d'empêcher ce qui n'irait pas dans le bon sens, tel que vous l'avez expliqué dans les différents les interventions des. De Mme Stenger, voilà, je vais chercher le terme.
Oui. Oui, mais l'éthique, c'est les applications de la science essentiellement. Hein. C'est-à-dire l'eugénisme, par exemple, c'est typiquement une horreur. Mais on peut démontrer que c'est une horreur. On peut démontrer pourquoi c'est une horreur. Parce que le développement darwinien suppose qu'il y a toutes sortes d'individus qui existent. Hein. Si tu crées des gens qui sont tous les clones les uns des autres, c'est catastrophique. Hein. Donc, c'est pas seulement moralement que l'eugénisme est une horreur. On peut montrer qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Bon, voilà. Donc, je ne crois pas que la science soit absolument absente des considérations sur l'éthique. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Là, c'est plutôt avec les biologistes qu'il faut discuter. T'as tout à fait raison, j'ai été très vite là-dessus, j'ai eu tort. Bon, j'ai montré un peu avec Leibniz, mais l'atome de Lucrèce ou l'atome des... c'est pas les mêmes que celui d'Épicure, mais ça n'a rien à voir avec l'atome actuel, strictement rien, et même l'atome actuel n'a rien à voir avec l'atome de Rutherford. Hein. On croyait au début du XXe siècle que les atomes étaient des petites boules insécables, en gros, et très vite on va comprendre qu'ils ont une structure et qu'ils sont pas insécables, ils sont coupables, si j'ose dire, on peut les couper, maintenant on sait les couper, etc., etc. Ils sont composés de protons et neutrons, les neutrons et protons eux-mêmes sont composés de quarks, enfin il y a toute une zoologie, mais j'ai pas voulu faire un cours de physique ici, mais effectivement, tu as tout à fait raison, et souvent ça m'énerve un petit peu quand on lit des choses comme la prescience extraordinaire des philosophes grecs qui avaient... Maintenant, pour comprendre les atomes, il faut faire de la mécanique quantique. Il n'y a aucune préscience chez les philosophes grecs de mécanique quantique. C'est absurde, ça. C'est des jeux de mots littéraires. Ça m'énerve un petit peu. Alors, on voit aussi ça. On te dit que la théorie du Li et Yang recouvre aussi un peu d'atomisme. Tout ça, c'est pas... Il y a aussi un atomisme qui est très différent, qui est l'atomisme du kalam musulman, qui, lui, à la différence de l'atomisme des Grecs, est un atomisme infiniment déiste. L'univers est composé d'atomes, mais Dieu, dans son infiniment puissance, contrôle la vitesse et la position de chacun des atomes de l'univers. C'est donner l'image de la puissance de Dieu, mais ça crée un peu une notion un peu de fatalisme, en quelque sorte. Si tout est décidé, bon, c'est... Bon, enfin... Oui. Oui, t'as raison. La place... Oui, enfin... Bon, ce serait l'objet d'une autre discussion, je suis d'accord avec toi. Laplace a fait une affirmation, il dit qu'un esprit infiniment intelligent, etc., et connaissant les conditions initiales, pourrait déterminer ce qui va se passer. Bon, le problème c'est qu'un tel esprit n'existe pas, évidemment, et puis il y a toute la théorie du chaos déterministe qui est derrière ça, qui, je peux pas vous expliquer ça maintenant, mais si vous m'avez invité, je le ferai, qui fait que ça marche pas. Et ça n'existe pas. Il faut pas confondre déterminisme, à savoir la connaissance des lois, avec prédictibilité, la capacité qu'on a de prévoir ce qui va se passer. Ça a l'air étonnant ce que je dis, mais c'est pas la même chose. Et ça, c'est très intéressant. Peut-être même en politique. Mais enfin, bon. Mais je veux pas rentrer là-dedans. Bonjour.
Donc, quand on parle du principe qu'il y a une vérité du monde en dehors de ce que pense l'esprit humain, est-ce que, avec la science, on peut affirmer que on peut atteindre cette vérité ? Est-ce que vraiment la science nous permet ou nous permettra un jour de dire que nous connaissons la vérité du monde ?
je vais te faire une réponse très courte à ça, mais c'est une... D'abord, je ne dis pas la vérité du monde, je dis que le monde existe indépendamment de notre conscience. La notion de vérité du monde, c'est une autre paire de manches. Mais si tu veux, la réponse que je te ferai, c'est ceci. Dans un roman policier, ou dans un film policier, plus tu en sais, moins tu en ignores. Bon, c'est une palissade, mais j'aime bien ce genre de palissade. Bon, dans le travail scientifique, plus tu en sais, plus tu en ignores. Je te donne un exemple très clair et très simple. On sait maintenant, enfin c'est extrêmement vraisemblable, que nous ne connaissons que 5% de l'énergie et de la matière qui nous composent. Tout le reste nous est inconnu, existe, mais nous est inconnu. C'est effrayant, ça. Bon, ça veut dire que tout ce qu'on vous raconte sur les atomes, les molécules, les machins, c'est 5 ou 10% de la matière réellement existante. Mais ça, c'est un produit quoi? C'est un produit de nos connaissances. Et au début du XXe siècle, personne n'aurait dit ça. On m'aurait pris pour un fou. Ça, c'est une affaire du XXIe siècle. Mais ça, ça vient du fait qu'on a beaucoup plus de connaissances maintenant sur le mouvement des galaxies, etc. Je veux pas rentrer là-dedans. Et on a été contraint de dire cette énormité. Et là, il y a du boulot. Fais-moi confiance. Donc, je répète, la différence entre un polar et la recherche scientifique, c'est que si elle n'est pas vraie, en recherche scientifique, que plus on en sait, moins on en ignore. Et du coup, est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité ultime? Moi, on pourra se revoir dans 2 ans, si tu veux, mais j'ai quelques doutes.
Donc, même sur ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est sûr que c'est...
Oui. Ah, sûr, mon Dieu, seul Dieu est sûr. Mais si tu veux, on procède par degré de par degré de certitude. Par exemple, est-ce que tu sais dater l'âge d'un arbre? Réponse, oui. Ça s'appelle la dendrochronologie. Tu le sais, mais tu savais pas que ça s'appelait comme ça. Tu comptes les cernes. Et c'est là, bon. Est-ce que cette théorie est sûre? Est-ce que tu es sûr que ce chêne a 400 ans? Bon, à ta place, je dirais oui, franchement, c'est vraiment 400 ans. Bon, si tu me demandes quel est l'âge de la Terre, je te dirais c'est 4,65 milliards d'années, avec le même degré de certitude. Degré de certitude encore, parce que si tu regardes un peu cette vérité scientifique-là, elle a beaucoup évolué dans le temps. Jadis, c'était 4004 ans, ensuite c'est devenu 77 000 ans, puis 30 millions, etc. Aujourd'hui, c'est 4,65 milliards. Pourquoi on est sûr de nous? Parce qu'on a maintenant des raisons aussi fortes que la dendrochronologie. Il y a des hypothèses, bien sûr. Les hypothèses, c'est quoi? C'est essentiellement qu'on ne croit pas que les décroissances radioactives aient varié dans le temps. Mais ça, c'est une hypothèse très faible. C'est à peu près évident qu'il en est ainsi. Et si elles ont un peu varié dans le temps, ça ne changerait pas grand-chose. Un peu. Bon, mais on n'a aucun élément pour le dire. Donc voilà. Mais maintenant, tu ne peux pas absolument exclure qu'un jour, on découvre qu'elles ont varié dans le temps. Donc, si tu veux, une vérité scientifique irréfutable, c'est un oxymore, c'est une contradiction. Une vérité scientifique doit toujours être contestable. Mais il y en a qui sont très durs à contester. C'est ce qu'on appelle une vérité scientifique. En gros, l'âge d'un arbre, l'âge de la Terre... L'âge du Big Bang à 13,7 milliards d'années, c'est déjà plus ouvert. Hein. Je ne mettrai pas ma tête à couper. Bon, c'est très probable, mais bon, voilà, etc. Bon, on va arrêter. Simplement, je vous avais mis ça pour vous dire si on veut jouer. Ah ben, vous ne voyez pas, c'est pas grave. Non, j'avais mis réfutabilité, reproductibilité, universalisme, parcimonie, capacité à prévoir, consistance, imbrication. Pour dire, voilà en gros autour de quoi tourne une vérité scientifique, mais chacun de ces points est discutable. Hein. Donc c'est très compliqué si on veut jouer au jeu de savoir qu'est-ce qu'est une vérité scientifique, mais il faut jouer à ce jeu-là, c'est important. Bon, mais c'est tout. Bon, ben.
Saluer avant de...
Qui tu es?
Enrique, c'est moi qui t'ai contacté il y a 2 ans.
Ah voilà, ça va, ça va, t'as changé.
Et on était plusieurs à avoir signalé ton bouquin.
T'as changé?
Oh non, franchement. Oui, ça c'est sûr.
C'est comme moi.
Mais en dehors de ça. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette conférence, c'était super. Allez, salut.
Allez, ciao.
J'ai pas du tout entendu la première phrase de Sanger, c'est C'est-à-dire que je l'entendais comme on peut très bien avoir une vérité qui a du pouvoir, tout simplement parce que justement elle est totalement irrationnelle.
Oui.
C'est-à-dire que l'irrationalité peut parfaitement être au pouvoir devant quelque chose qui est totalement rationnel. C'est une question. Moi, c'est comme ça que c'est s'entend, mais pas.
Elle n'est pas douée de pouvoir en vertu de son caractère rationnel. Ça, c'est pas tout à fait vrai.
C'est comme ça.
La théorie de Ptolémée, est-ce qu'elle n'est pas rationnelle à ton avis?
Pendant très longtemps, elle l'a été.
Mais elle a une rationalité. L'observation te prouve.
Oui, non, mais bien sûr. Et cela étant, il y avait toute une période où on savait en fait que la théorie Galilée était la bonne et celle de Ptolémée était fausse. Et on a continué. On a continué suffisamment longtemps quand même. Le Vatican a reconnu Galilée il y a 10 ans. Hein, donc c'est pas il y a,
non,
pas il y a très longtemps, c'est il y a 10 ans. Donc allez-y, regardez.
Je connais ça très bien.
Tu te trompes,
c'est sûr. Les erreurs de Galilée, ça il y a 10 ans, je suis d'accord avec toi. Mais les œuvres de Galilée ont été retirées de l'index dès 1830.
Ah non, retirées de l'index,
et ensuite, comme vérité,
c'est il y a 10 ans.
L'écrasante majorité du monde intellectuel avait accepté Galilée très vite.
D'accord, mais ça c'est différent.
Ça c'est l'Église.
Ça c'est différent, oui, mais d'accord, c'est l'Église gouvernait le monde à l'époque.
Oui, mais pas les intellectuels.
Qui était dans tous les coins de la France et de Navarre,
le curé, bien sûr,
le curé racontait Ptolémée, hein, il racontait pas Galilée.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà, c'est pour ça que la vérité est
vécue. C'est une vérité d'église.
Parce que si j'avais un appareil photo, je l'enverrais à ton neveu pour rigoler un peu.
Ça c'est intéressant.
La question, c'est qu'il n'est pas complètement d'accord avec vous.
Vous imaginez quelque chose.
Que ça me fait rire.
Quelque chose que tu ne connais pas.
Tu ne connais pas l'ensemble, tu ne peux pas dire que c'est du